Rémi Azémar, tout jeune docteur en histoire, était l'invité en décembre 2025 du Centre d'Histoire du Travail et des Archives départementales de Loire-Atlantique. Objet de sa conférence, faire retour sur l'important mouvement social de 1995 qui a marqué toute une génération. Alternante FM était présente à cette occasion. Après avoir évoqué le contexte politique, social et économique, Rémi Azémar nous propose d'explorer les ressorts de cette mobilisation populaire et les enjeux qu'elle portait. Laissons-lui la parole.
Comment expliquer le départ du mouvement ? Est-ce que c'est une grève spontanée ? Est-ce que c'est une grève préparée ? Donc ça, c'est souvent des questions qui font débat. Dans moi, de mes recherches, ce que je pense, je vais mettre quelques éléments en avant, c'est que déjà 1995, c'est une année où il y a plein de grèves sectorielles. C'est qu'on n'attend pas l'intersyndicale nationale, interprofessionnelle, qui appelle à une date pour faire une grève dans son secteur. On va avoir des grèves qui sont à la Poste le 30 mai, par exemple. On a des grèves dans tous les services publics. Il y a eu 716 préavis de grève à la SNCF sur l'année, différents, déposés, qu'ils soient locaux ou nationaux. Donc c'est quand même une masse de mécontentement qui est assez importante. Il y a des grèves à Air France qui sont assez importantes à citer. Une grève à l'ONF aussi. Bon, il y a aussi des plus petits services publics dont on ne parle jamais, qui font des grèves assez importantes. Il y a des unités syndicales, autant à la tête qu'à la base. La grève du 10 octobre au niveau de toutes les fonctions de la fonction publique, elles s'unissent pour appeler à la grève du 10 octobre. Il y a aussi un appel commun le 14 novembre sur la défense de la protection sociale signé par la CGT, par FO et par la CFDT, avant le plan Juppé. Et à la base, il y a une pétition qui s'appelle « La Sécu, c'est la vie » qui est diffusée en mois de novembre et qui est intersyndicale, qui va être passé de service en service. En tout cas, bon, voilà, il y a des éléments comme ça. Comme souvent dans les mouvements sociaux en France, ça part pas non plus des salariés, ça part des étudiants et étudiantes. Bon, ça c'est toujours un principe, qu'on peut toujours trouver une grève d'étudiantes qui précède un mouvement de salariés depuis 68. Le 9 octobre à Rouen, en université de sciences, je le dis parce que souvent on a l'impression que les mouvements étudiants sont que dans les sciences humaines et sociales. Mais 95 va un peu contredire ça, vu que la première université à se mettre en grève, c'est fac de sciences, il n'y a pas de syndicat, c'est une association, ils sortent de cours, ils disent on ne peut plus étudier dans ces conditions-là, et c'est le 9 octobre, c'est le début d'une première, un premier mouvement qui va être d'ampleur nationale, c'est-à-dire qu'il va passer à la télévision, que les gens vont entendre parler. La deuxième université à se mettre en grève, je le dis parce que bon, c'est pas parce que je viens de Toulouse, mais c'est parce que c'est aussi important et c'est aussi une fac de sciences, c'est l'université Paul Sabatier à Toulouse. Et c'est pas le Mirail, c'est pas Nanterre. On va voir que c'est d'autres logiques qu'en 1968. Donc on a une grève étudiante, on a une unité syndicale un peu forte des conflits sectoriels. On a deux événements, donc on a vu des réformes, enfin des propositions de loi, pas des réformes, mais des propositions de loi qui vont être mises en place par Alain Juppé et Jean Bergougnoul, patron de la SNCF, qui font que va y avoir un appel à la grève le 24 novembre, fonction publique, que la CGT va élargir à tout le privé. Donc ça, c'est le point de départ de la grève. À ce moment-là, on a deux autres événements qui sont importants. On a Force ouvrière qui, seule, dit non, on ne veut pas faire de l'unité avec la CFDT, parce que la CFDT... lors de l'annonce du plan Juppé, a annoncé que le plan Juppé comportait des éléments intéressants et qu'il ne fallait pas le rejeter en bloc dans ce qu'on appelle la marche du siècle, qui est un événement important en 1995, qui est le 15 novembre. Donc la CFDT, fonction publique, était pour appeler à la grève du 24 novembre dans le cadre du gel des salaires et combat contre les retraites, mais n'était pas d'accord sur combattre ce que je vous ai parlé, l'étatisation de la sécurité sociale et d'autres points du plan Juppé. Donc Force ouvrière va se retirer et va appeler à une date seule le 28 novembre. Donc on pourrait se dire, ah c'est la désunion syndicale, c'est mauvais, il ne va pas y avoir un mouvement. Mais à cela s'ajoute une troisième date qu'on parle souvent peu dans cette histoire de 95, C'est le 25 novembre, la manifestation pour le droit des femmes. Attention, ce n'est pas comme depuis 1999 sur les questions des violences, mais c'est une défense sur la question de l'avortement. Notamment, il faut savoir, depuis 1991-1992, il y a des commandos anti-IVG qui empêchent les avortements. Et il y avait une proposition de loi en juin qui prévoyait d'amnistier ces personnes-là. Bon, il y a un ordre réactionnaire qui se développe en 1995, hein, qui est soutenu par le pape. Enfin voilà, il y a des mouvements transnationaux contre l'avortement. Et donc, il y a une grande manifestation qui est signée par plus de 100 organisations et tous les syndicats y appellent le 25 novembre. Donc, vous voyez, 24, 25, 28, que va-t-il se passer? Ben, les cheminots vont, le 24, appeler à une grève reconductible. Et grâce au 25 et au 28, ils vont réussir à faire le pont en ayant des perspectives. Donc, ce que ça a ouvert le 25 et le 28, c'est des journées de perspectives pour des cheminots qui reconduisent la grève. Bon, là, je vous donne des éléments très rationnels, mais en fait, qu'est-ce qui fait le point de départ d'un mouvement? Il y a tout le côté émotionnel. C'est-à-dire que là, il y a plein de gens qui vont me dire, mais non, moi, j'étais en 95. Ce qui a fait qu'on a décidé la grève, c'est que on était là, j'ai dit, ça suffit, quand est-ce qu'on va arrêter de rester spectateur? Il faut qu'on y aille. Et il y avait un entrain, un enthousiasme. Donc moi, toutes les personnes que j'ai interrogées de 95 me parlent de ça, de réunion syndicale du mois de novembre ou d'assemblée générale de salariés. Où ben, y a des gens qui croient, qui ont de l'espoir dans ce qu'ils font et qui poussent les autres personnes à se mettre en grève. C'est, aujourd'hui, c'est peut-être quelque chose qui manque un peu plus, cette croyance du changement, croyance en des possibles. Et donc ça, en 95, c'est quelque chose qui est très très important. Et d'ailleurs, on va voir, les cheminots, dès qu'ils décident la grève, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller essayer de convaincre les plus proches. Les plus proches, c'est qui en 1995? C'est les centres de tri à la poste. Parce que je vous rappelle que les centres de tri étaient connectés aux gares. Et ça, c'est aussi une contre-attaque de 1995, c'est qu'on a décalé les centres de tri. Aujourd'hui, les centres de tri sont très loin des gares. Et du coup, il y a beaucoup moins cette connexion d'un service qui s'appelait le transbordement, c'est-à-dire où les salariés du rail travaillaient avec les salariés postaux. Et ce qui fait que quand les salariés du rail arrivaient à la poste et disaient « on s'est mis en grève pour ça, pour ça, pour ça », eh ben, en fait, c'était des collègues un peu éloignés, mais c'était des collègues parce qu'il y avait des activités de travail qui étaient communes, qui ont permis de déclencher les grèves à la poste. Et après, il va y avoir tout ce phénomène de délégation cheminote, puis après de délégation intersecteur qui vont aller propager la grève de cette manière-là. On va voir que ça a plus de réussite dans le public et que dans le privé, ça aura plus de difficultés. Par exemple, les cheminots de Bordeaux, ils se disent, on va aller mettre en grève les entreprises de toute la rue, à côté de la gare. Ça a été beaucoup moins de succès que ceux qui ont fait le choix d'aller mettre en grève les postiers. Je vais essayer de donner quelques éclairages un peu de ma thèse sur qui sont les protagonistes du mouvement. Parce que moi, c'est quelque chose qui m'a intéressé, parce que quand j'ai entendu parler de 95, j'entendais parler surtout d'un mouvement cheminot. Tout le monde me disait « Ah non, mais va parler à lui, il était responsable cheminot, va parler à lui, c'était le délégué. Donc, je me suis dit « Bon, mais c'est une grève cheminote. » Sauf que quand je regardais les chiffres, je sais pas, je prends Mulhouse, 24 novembre, 42 cheminots, 1000 enseignants. Bon, si on prend un chiffre de manifestation, s'il n'y avait que les cheminots, vous vous rendez bien compte que déjà les cheminots, ils ont été saignés en termes de pourcentage de salariés. En tout cas, il y a eu une perte d'énormément de salariés, 27 000 entre 75 et 94. Et donc, ce n'est pas eux qui font le gros des manifestations. Donc, il y a plein de protagonistes différents. Et moi, ce que j'ai un peu montré dans ma thèse, c'est que le mouvement, il est très pluriel. On va voir, OK, les cheminots en corporation. On va voir EDF-GDF, les gens de l'énergie, qu'on a très peu parlé après 95. Et d'ailleurs, ils ressortent avec une grande amertume, comme des grands perdants de cette grève, et considérant qu'on n'a parlé que des cheminots et on n'a pas parlé de leur grève. Alors que, pour mémoire, les taux de grève à EDF-GDF sont à 5% juste en dessous des cheminots au niveau national. Donc c'est pas une grève qui est beaucoup moins faible. Et pareil, les centres de tri postaux, on en a peu parlé, alors que moi, de tous les rapports des renseignements généraux que j'ai étudiés, c'est elle qui fait le plus de mal au patronat. Dans le sens qu'en 95, le paiement des factures, il se faisait par chèque. Et par chèque, comment on envoie les chèques? Par la poste. Et du coup, quand on bloque les centres de tri postaux, on empêche l'encaissement d'une partie des recettes pour le patronat. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a le petit patronat va pas s'organiser pour débloquer des piquets de grève à la SNCF. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont attaquer des centres de tri postaux ou ils vont organiser des centres de tri parallèles. Donc on a aussi donc voilà, on parle beaucoup de la grève des cheminots. Elle a, c'est sûr, un rôle de locomotive. C'est elle qui va entraîner beaucoup, mais c'est pas elle qui est la seule en cause. Donc dans les protagonistes, d'autres protagonistes qu'on parle aussi peu, c'est les lycéens. Donc il faut savoir qu'on parle beaucoup des étudiants en 95 qui faisaient leur mouvement de grève, mais si on compare les chiffres, notamment dans les petits départements plus ruraux, il y a des fois la moitié des cortèges, c'est des lycéens et lycéennes. Je prends un Nérac, Air-sur-Adour, moi j'ai beaucoup étudié Sud-Ouest, hein, je viens du Sud-Ouest, mais même ici, on a des grands cortèges lycéens, beaucoup de lycées qui sont bloqués, une grève lycéenne qui est forte, et on en parle très peu, qui est un peu, je pense, dommage. Mais pourquoi les lycéens et lycéennes se sont mis en grève? Donc il y a des effets d'entraînement, bien sûr, de solidarité avec le monde étudiant. Mais il y a aussi, je vous ai rappelé, la question du chômage. Pour une fois, le mouvement lycéen, il ne part pas des lycées généraux. Il est très fort dans les lycées professionnels, les lycées technologiques, ce qui est plus rare dans d'autres mouvements étudiants. Et pourquoi? Eh bien parce que, et c'est pareil dans l'université, hein, il y a énormément d'IUT, l'IUT Pierre Fabre à Castres, enfin, au lieu du gauchisme français, et ben pourquoi ils sont en grève? Parce qu'il y a cette peur du chômage, ce manque de perspectives professionnelles. Et donc, c'est pareil un petit peu au niveau du lycée. C'est-à-dire qu'il y a plein de revendications. En fait, on va faire quoi? On va étudier pour être au chômage dans 3 ans? À quoi ça sert? On n'a pas de perspective à l'université. Il y a un discours d'un lycéen, on va aller à l'université pour être 45 par une salle de TD, on ne va pas pouvoir bien étudier pour après être au chômage. Ce qui va manquer pour parler de grève générale, c'est qu'il y a le secteur privé qui est très faible en 1995. En moyenne, on est à 1% du secteur privé qui va faire grève sur les journées d'action. Les grandes entreprises comme Renault, Peugeot, qui sont un peu scrutées comme des variables, ne se lancent pas. Par exemple, la Sochaux, Peugeot, le 5 décembre, grosse journée, il y a les 40 responsables de la CGT qui vont 2 heures en manif. Il y a une personne qui se met en grève en plus. Vous imaginez, sur une entreprise de plus de 1500 salariés, c'est assez risible. Mais on a par contre, de manière locale, des entreprises privées qui vont soit débrayer, soit profiter de ce mouvement-là pour faire une conjonction entre un combat local et le combat contre le plan Juppé. Moi, je viens de Toulouse. Du coup, il y a une usine qui est assez célèbre qui s'appelle l'usine Job chez nous, qui faisait des papiers à cigarettes. Des papiers, non pas des papiers à cigarettes, c'est Brice Lacroix. Non, c'est des papiers, grands papiers. Et du coup, cette entreprise-là qui est dirigée à l'époque par Bolloré, qui va la vendre pour faire un plan de licenciement, les personnes salariées de Job vont profiter du mouvement de 95 et vont avoir une place dans le mouvement de 95 pour lier le plan Juppé et leur combat contre la délocalisation. Donc on va avoir des phénomènes un peu comme ça dans le privé. Il va y avoir aussi des comités de chômeuses et chômeurs. Marseille notamment est l'exemple de pourquoi les manifs étaient très importantes à Marseille. C'est pas forcément sur les taux de grève, il va y avoir un peu des taux de grève similaires, mais ça va être sur la question du comité de chômeuses et chômeurs qui va faire des grands cortèges à Marseille et mener une lutte assez impressionnante. Ce qu'il faut retenir des protagonistes de 95, c'est que c'est vraiment un mouvement pluriel qui a une multitude de protagonistes et que ça dépend vraiment des territoires. C'est-à-dire que moi, entre 2 départements que j'ai étudiés, je suis allé dans 40 départements étudier le mouvement, mais vous allez avoir vraiment, à tel endroit va y avoir les pompiers, à tel endroit va y avoir les agents de l'ONF, à tel endroit les impôts ils vont faire une grève reconductible, mais dans l'autre département, non. Vous voyez cette logique-là, qu'on va être vraiment sur une grève qui va être très différente en fonction des territoires. On va avoir une constante qui est cheminot, EDF-GDF, lycéens, lycéennes, étudiants, mais même pas une constante, et l'éducation nationale sur les grandes journées d'action. Et après, on va avoir vraiment des différences de territoire très très importantes. Et d'ailleurs, le mouvement de 95, c'est un mouvement qui est territorialisé. Si on fait une étude géographique, comme je l'ai fait dans ma thèse, on va voir que le Nord-Est, l'Alsace et l'Île-de-France vont être très faibles en termes de mouvement. Et ce qui va concerner les régions les plus manifestantes et les plus grévistes de France, ça va être le Midi-Pyrénées, le Limousin, l'Auvergne et la Normandie. Pourquoi cette différence-là? Moi, j'avance 3 hypothèses. Première hypothèse, c'est qu'on a donc le part des services publics dans l'emploi. Si vous voulez, en fonction de votre département, il y a plus de services publics ou moins de services publics. Notamment, le Midi-Pyrénées, il y a plus de part de l'emploi qui est occupée par des services publics que dans l'Alsace. Donc on va voir ce genre de phénomène-là. Deuxième phénomène, c'est la présence des syndicats contestataires. Je vous ai dit, la CFDT, au niveau national, soutient le plan Juppé. Le bureau national est unanime, même si vous avez un représentant de la CFDT ici, élu, qui, au bureau national, va émettre des doutes à des moments. Il n'empêche que la CFDT, vraiment la tête de la CFDT, est assez unanime. Pourtant, il y a plusieurs fédérations de la CFDT, comme celle des cheminots, qui vont être dans le mouvement, mais il y a aussi plusieurs unions régionales ou unions départementales. C'est le cas dans l'Auvergne, c'est le cas dans la Basse-Normandie, c'est le cas également dans le Midi, pas l'Union régionale dans le Midi-Pyrénées, mais plusieurs unions départementales et plusieurs syndicats importants. Et c'est le cas de l'Union départementale des PACA. Donc on a, quand on explique un petit peu la territorialisation du mouvement, ça correspond bien au CFDT contestataire. Ce qui fait qu'il y avait une unité syndicale entre la CGT, la CFDT, Force ouvrière, donc ce qui faisait que ça permettait au niveau territorial de dire que tout le monde y était. Ce qui n'était pas le cas, par exemple, dans l'Alsace, où l'Alsace, la CFDT est plus forte que la CGT, déjà en 95, et contre le mouvement, ce qui fait que c'est plus dur de démarrer une grève. Et dernier facteur, c'est la question de la proximité vers la retraite, c'est-à-dire qu'en Ile-de-France, on est souvent plus jeune, moins enclin à se mobiliser sur des questions de retraite. Par contre, par le jeu des mutations, dans le sud de la France, vous savez que c'est plus dur d'arriver dans le sud de la France pour ceux qui ont, et celles qui ont essayé de faire des mutations. C'est sûr qu'à Montpellier, on a plus une typologie en termes d'âge qui est des personnes qui étaient dans l'espoir d'avoir leur retraite très rapidement et qui, avec la réforme, avaient peur de perdre 2 ans et demi.
Alternante FM.
Qu'est-ce que dit le mouvement de 95 et qu'est-ce que fait le mouvement de 95? Parce que c'est deux éléments importants. Qu'est-ce qu'il dit? Ça a été beaucoup la question qui a mobilisé les intellectuels. Les intellectuels, souvent, vous savez, ils analysent le mouvement pas par rapport à ce qu'il fait ou par rapport à comment il s'organise, mais plutôt à ce qu'il dit. On avait Alain Touraine qui défendait que c'était un mouvement retardataire, voire conservateur, un mouvement des corporatismes. Il y a cette idéologie-là, notamment qui est partagée à la CFDT, hein, qui va être de dire que les anciennes corporations ont acquis des avantages qui font que c'est une classe de travailleurs et travailleuses protégées et privilégiées, et qu'en face, il y a une grande pauvreté qui est en train d'émerger, et que plutôt, il faut donner, vu qu'on est dans une politique de rigueur et qu'il faut accepter la rigueur, il faut attaquer ces corporations protégées, entre guillemets, pour donner de l'argent aux plus pauvres. Donc on a cette idéologie-là. Et donc Alain Touraine notamment, et donc plusieurs intellectuels, Pierre Rosanvallon, il faut savoir que c'est quand même au niveau des chaires occupées par ces personnes-là dans l'université, c'est des personnes qui sont très influentes, qui vont signer un appel contre le mouvement, un appel pour dire que ce mouvement, il est retarde. Et en face, on va avoir un mouvement des intellectuels qui va dire plutôt qu'on est dans un mouvement qui va défendre plusieurs éléments en fonction d'où on se place. Mais moi, ce que je remarque, c'est que tous ces appels des intellectuels, quels qu'ils soient, ils n'ont pas étudié le mouvement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas regardé les cahiers revendicatifs. Ils n'ont pas regardé les pancartes d'une ville. Ils n'ont pas regardé, je ne sais pas, les discours des personnes-là. En fait, ça part de leurs préoccupations. C'est-à-dire même moi, même les intellectuels qui soutiennent le mouvement, ça part de Paris 8, de discussions qu'il y a dans une université. Donc, c'est des choses qui sont assez différentes. Donc, si on retient vraiment de qu'est-ce que pense et qu'est-ce que... Donc, moi, j'ai étudié des centaines de cahiers revendicatifs, plein de pancartes, plein de choses comme ça. On voit il y a donc plusieurs éléments qui font plus ou moins qui vont plus ou moins faire d'accord au sein du mouvement. Le premier, c'est le retrait total du plan Juppé. Donc ça, c'est ce qui fait le plus d'accord. L'attaque sur de retirer que Alain Juppé retire sa réforme, voire s'en aille aussi. Ça peut être une autre revendication qui va naître au cours du mouvement. On va avoir l'arrêt des privatisations, la défense de la sécurité sociale, l'arc de défense des services publics. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment ce que moi j'appelle plutôt une défense de pays. C'est-à-dire que pourquoi le mouvement il est plus fort par exemple à Albi qu'à Paris ou en Auvergne? Parce que quand je vous ai expliqué les 6000 km de suppression de trains ou à Roanne à cause de la délocalisation de la caisse d'assurance maladie, c'est qu'il y a une idée qui est défendue par les grévistes, qui est que quand on attaque la base sociale, l'état social de son territoire, et bien du coup on va enclaver ce territoire là c'est-à-dire que s'il n'y a plus le train, comment on fait pour aller dans la ville, qui c'est qui va venir aménager ici, comment on fait pour aller travailler, etc., etc. Donc il y a toute cette logique là de défendre un modèle de société, de défendre un territoire. J'ai trouvé aucun cahier revendicatif corporatiste. Il n'y a aucun cahier revendicatif en 95 qui ne comporte aucune revendication sociétale. Les cahiers revendicatifs que j'ai pu étudier, j'en ai étudié plein, ont une revendication pour sociétale. Par exemple, les cheminots vont parler de l'augmentation du billet de train, que ça va être plus dur, la suppression des services publics. On va avoir, voilà, la question, elle va être une question de société. C'est pour ça que moi, je défends que c'est un mouvement social et un mouvement politique, dans le sens que on va avoir des prémices de développement de la critique du néolibéralisme, de critique de ce modèle-là. Et ça, vraiment, 95, il faut l'étudier comme ça. Par exemple, à la gare de Toulouse, il y avait une grande soirée et toutes les personnes qui participent à la soirée ont écrit des messages sur un mur. Et vous voyez tous les messages que fait ce mur-là, c'est profondément politique et profondément vecteur de changement. C'est pas un mouvement qui défend uniquement la question des retraites et uniquement la question de sa corporation. Dernier élément, parce que c'est peut-être un peu important dans notre contexte, c'est la question de la stratégie d'action. Parce que chaque mouvement a une stratégie d'action pensée ou pas, ou construite sur le tas plutôt, moi je dirais. Et la première chose qui est marquante sur 95, c'est qu'on a, le 10 octobre, la grève elle est majoritaire dans la fonction publique, toutes confondues. Dans des préfectures, il y a plus de 50% des salariés qui se mettent en grève. Dans tous les territoires, enfin la fonction publique d'État, on va avoir des taux de grève très très importants. Et jamais, à partir du 24 novembre, on retrouvera ces taux de grève. C'est-à-dire que les taux de grève sur l'année 95 où ils ont été le plus importants, c'est le 10 octobre avant le mouvement. On se dit, c'est bizarre quand même. Normalement, on espère dans le mouvement que ça fait que progresser. Et au final, ce qui est important à prendre en compte, c'est que le mouvement de 95, si on prend la courbe de la grève, elle va, donc le 10 octobre va être le plus haut, et après on va avoir une courbe un peu descendante, un peu stagnante pendant tout le mouvement. Et si on prend la courbe des manifestations, par contre, on va avoir une courbe qui augmente de manière exponentielle. Le mouvement de 95 va être le point de bascule entre deux pratiques du répertoire d'action. La première pratique, c'est la pratique historique du mouvement ouvrier, la grève. Et la deuxième pratique, c'est une pratique qui est née dans le mouvement ouvrier, mais qui s'est développée aussi par ailleurs, qui est la pratique de la manifestation. Il faut savoir qu'il y avait un sondage Cevipof en 95. La grève était devant la manifestation. Et la grève est encore considérée comme plus acceptable que la manifestation. Donc on était dans un moyen d'action qui était considéré avec plus de facteurs de réussite et plus acceptable que la grève. Donc c'est pas un mouvement qui a aussi fait usage de beaucoup de dégradation de matériel. C'est pas un mouvement qui a théorisé des pratiques d'action directe, même s'il y a eu du sabotage en interne. Notamment le sabotage, il va concerner les entreprises privées qui sont embauchées pour pallier les effets de la grève. Je vous ai parlé, il y a eu des centres de tri alternatifs en France, notamment des centres de tri où on faisait bosser des intérimaires. Et donc ça, les salariés postaux se sont employés, désorganisés et fermés ces centres de tri. Il y a eu à Saint-Étienne, par exemple, les communaux, il y a une entreprise privée parallèle qui s'est mise en place au moment de la grève. Et ben, ils ont cassé leur camion, ils ont, bon voilà, il n'y a pas eu aucun dégât matériel dans la grève, hein, c'est un conflit, donc il y a forcément de la conflictualité, mais en tout cas c'est assez faible. Les manifestations, bon, pour celles et ceux qui étaient, je vais vous montrer des images, mais c'est des manifestations qui sont assez joyeuses, on a un peu toujours cette image-là, il y a des fanfares, il y a tout le temps des sourires, il y a des batucadas, ici il y a même des cornemuses, enfin bon voilà, il y a tout un répertoire d'actions très varié en manifestation. Il y a plein d'enfants en manifestation aussi, il y a plein de slogans, mais on va être dans, voilà, dans une des manifestations très joyeuses. Enfin, du coup, les manifestants défilent en tenue de travail, vont exposer le travail, retrouver une fierté du travail aussi, il y a cette idée-là, que, comme je vous ai dit, Alain Juppé, il critiquait beaucoup les fonctionnaires, mais là, de ressortir avec, en tenue, avec les voies ferrées, de remontrer tout ça sur la voie publique, c'est regagner de la fierté au travail. Et enfin, peut-être un dernier élément, je m'arrêterai là, c'est la question de dernier mode d'action qui est assez important en 95, qu'on en parle peu, c'est la question des séquestrations. Ça va paraître un peu étonnant, mais en 95, il y a énormément de directeurs locaux de EDF, La Poste, la SNCF, qui sont séquestrés plusieurs heures pour obtenir satisfaction. Il y a même les mineurs de Lorraine qui sont en grève aussi, qui vont séquestrer leurs députés, l'amener au fond de la mine pour lui faire prendre conscience de la dureté du travail et qui vont le séquestrer dans une manifestation aussi, qui va se faire gazer, il va avoir l'air un peu hagard. Si bien que l'année suivante, d'ailleurs, la réussite de cette action-là, fait qu'il écrit au ministère, ce député de droite local, il va écrire au ministère et il va dire « plus jamais ça, s'il vous plaît, il faut vite négocier avant qu'il se repasse les mêmes événements que l'année dernière ». Donc il y a quand même une pratique de la conflictualité qui est forte, c'est pas parce qu'il n'y a pas des imaginaires qui sont liés au mouvement de 95 sur plutôt une manifestation, voilà, des choses bon enfant, qu'il n'y a pas eu de la conflictualité, il n'y a pas eu des accrochages à des moments, et etc. Merci.
Rémi, je te remercie pour ton exploration du 95 au niveau national, mais alors, le 95 nantais, il n'a vraiment rien d'exceptionnel ?
Il n'a rien d'exceptionnel, enfin, moi je pense qu'il n'y a rien d'exceptionnel à aucun territoire. Il a des éléments originaux, on va dire. Il a des éléments originaux. Exceptionnel, ça serait qu'il y a un territoire, à la limite, Roanne est exceptionnel, parce qu'à Roanne, ils finissent la mobilisation en mars 1996, alors que dans partout, on l'a fini au maximum en janvier. Donc bon, ça c'est exceptionnel. Ou les traminots de Marseille, c'est assez exceptionnel parce qu'ils arrivent le 8 janvier à continuer cette grève nationale. Donc bon, à Nantes, la question, c'est ce qui va un peu faire varier, c'est la question des étudiants et étudiantes qui vont appeler à des manifestations l'après-midi en dehors de la manifestation intersyndicale. Ces manifestations-là vont amener de la conflictualité avec la police de manière très rapide. Il va y avoir de nombreuses arrestations, de nombreuses violences policières, comme en tout cas le décrivent les manifestants, et ce qui n'est pas le cas des archives des renseignements généraux, hein, il n'y aura pas de violences policières. Donc, mais en tout cas, c'est comme ça que la LDH qui va concevoir un observatoire de cette pratique policière. Donc il va y avoir un peu cet élément-là qui va faire originalité. C'est en fait un début de criminalisation. Il faut savoir qu'en 95, dans le cas en Aveyron, à Millau, il y a quelqu'un qui tape un policier qui était un peu sous en manifestation. Il est relaxé. Aujourd'hui, vous tapez un policier en manifestation, je vous prédis que vous n'êtes pas relaxé. Et tout ça, ça commence quand ? Ça commence un peu à ce moment-là, et notamment Nantes en est l'exemple, parce qu'il y a des mineurs aussi en Lorraine qui vont s'affronter violemment avec la police, il va y avoir une répression policière, mais pas de répression judiciaire. Ce qui va changer avec le cas de Nantes et Montpellier un tout petit peu, c'est une répression judiciaire, c'est-à-dire qu'on va condamner des personnes, et on va les condamner surtout pour leur profil. C'est-à-dire que moi, j'ai étudié un peu ces archives. On va avoir plutôt le SDF qui n'a pas de garantie de représentation, un peu les badauds qu'on va... C'est comme ça qu'ils sont nommés badauds dans les rapports de police, qu'on va condamner parce que, en fait, ils sont plus faciles à condamner que les lycéens et lycéennes et étudiants qui sont arrêtés. C'est-à-dire sur les mêmes faits, on va plus condamner ces personnes qui n'ont pas une insertion dans la société.
Histoire plurielle des grèves de novembre et décembre 1995, une conférence de l'historien Rémi Azémar proposée par le Centre d'Histoire du Travail.